Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de VOA Afrique Le Monde. Aujourd'hui, édition du vendredi 28 novembre 2014. Au micro, Bagassi Koura et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, Abdoulaye Miskine est libre. Le chef rebelle du FDPC en RCA a été échangé contre la libération de plusieurs otages camerounais et un prêtre polonais.
Blaise Compaoré sera-t-il jugé au Burkina Faso? Le premier ministre intérimaire Isaac Zida compte bien demander son extradition aux autorités marocaines.
170 personnes ont été placées en observation au Bénin suite à l'identification de 14 cas suspects de fièvre Lassa, un virus voisin d'Ebola.
En RDC, la situation sécuritaire qui prévaut depuis 2 mois dans le territoire de Béni, au Nord Kivu, devient de plus en plus inquiétante.
Et n'oubliez pas nos pages sport et musique en fin d'émission. Mais d'abord, le journal.
Les rebelles du FDPC, le Front démocratique du peuple centrafricain, ont obtenu la libération de leur chef, Abdoulaye Miskine. C'est en échange de la libération effectuée la veille du prêtre polonais Mateusz Dziedzic et de 26 otages, dont 15 Camerounais, qui étaient détenus dans l'ouest de la Centrafrique. Le chef rebelle s'est envolé hier, peu après 15 heures, heure locale, pour Brazzaville, à bord d'un avion de la présidence congolaise. Abdoulaye Miskine était détenu à Yaoundé depuis près d'un an.
Au Burkina Faso, le général de brigade Gilbert Diendéré, un proche de l'ancien président Blaise Compaoré, décrié par la population, a été démis de ses fonctions. La présidence de la transition a publié un décret mettant fin à ses fonctions en tant que chef d'état-major particulier de la présidence du Faso. Une mesure similaire a été prise à l'encontre de 2 autres fonctionnaires de l'ancien régime. Il s'agit du conseiller spécial de Blaise Compaoré, Damo Justin Barrault, et du secrétaire permanent du conseil présidentiel pour l'investissement, Gibrina Bari. Notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo, précise l'importance de ces mesures.
L'importance de ces 3 décrets vient surtout du fait que le général Gilbert Diendéré, qui a été le compagnon le plus fidèle de Blaise Compaoré depuis 87 à l'assassinat de Thomas Sankara, est resté. Après le départ de Blaise, beaucoup de gens pensaient même qu'il était passé avec lui, mais il est resté et c'était la personnalité vraiment, vraiment très, très proche de Blaise Compaoré qui soit resté toujours à la présidence. Donc, le nouveau président, en mettant faire sa fonction, c'est une coupure des plus profondes dans tout ce qui est l'après Blaise Compaoré, quoi.
Quelles ont été les réactions à Ouaga?
Ils ne sont pas étonnés. Beaucoup même pensaient que ça devrait venir un peu plus tôt.
Et concernant les 2 autres personnalités écartées?
Là, c'est l'aspect économique pur et dur. Gibrina Bari, c'est parmi que tout ce qui est investissement au Burkina Faso, il dirigeait déjà même la commission des partenaires de l'investissement du Burkina. Justin Damo, lui, il est ex-gouverneur de la BCAO. C'est encore la partie économique, la gestion économique de Blaise Compaoré à la présidence qui a été coupée comme ça.
Voilà, c'était notre correspondant Zoumana Wonogo à Ouagadougou. Et sachez aussi que l'Assemblée intérimaire du Faso a tenu jeudi après-midi sa première session. Les 90 conseillers, dont 30 de l'ex-opposition, 25 de la société civile, 25 de l'armée et 10 de la précédente majorité, ont fait choix du journaliste Chérif Sy comme président. Le conseil aura de vrais pouvoirs législatifs.
Par ailleurs, le Burkina Faso va demander au Maroc l'extradition du président déchu, Blaise Compaoré. C'est ce qu'a laissé entendre hier le premier ministre intérimaire Isaac Zida, interrogé par des journalistes. Blaise Compaoré a fui son pays le 31 octobre pour se réfugier en Côte d'Ivoire, avant de rejoindre le Maroc le 20 novembre. Le lieutenant-colonel Zida a par ailleurs annoncé que le dossier du président Thomas Sankara serait entièrement rouvert et que justice serait rendue.
170 personnes ont été placées en observation au Bénin suite à l'identification de 14 cas suspects de fièvre Lassa, un virus voisin d'Ebola. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
8 personnes parmi les 170 mises en observation sont mortes de la maladie selon un texte publié jeudi par l'OMS et les autorités béninoises. Les 170 contacts ont été identifiés dans les communes de Tanguieta et de Kobli et font l'objet d'un suivi quotidien, ajoute le texte. La ministre béninoise de la Santé publique, Dorothea Koko Kindegazar, avait annoncé la semaine dernière la mort de 5 employés de l'hôpital de Tanguieta, dont 2 étaient les cas confirmés de virus de Lassa. La fièvre de Lassa sévit de manière endémique au Nigeria, en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Elle est asymptomatique dans 80% des cas, mais pour les autres, elle peut provoquer des atteintes sévères, notamment hémorragiques ou neurologiques. La transmission se fait par les excrétions des rongeurs ou par contact direct avec du sang, des urines, des selles ou d'autres liquides biologiques d'une personne atteinte. Entre 100 000 à 300 000 personnes sont infectées par cette fièvre chaque année en Afrique de l'Ouest et 5 000 en meurent selon le Centre américain de prévention et de contrôle des maladies.
À quand un vaccin contre Ebola? Les premiers résultats aux États-Unis des tests sur l'un des deux vaccins expérimentaux contre le virus semblent prometteurs. Des détails avec Henri Francisque.
Oui, mais il faudra encore de longs mois avant de disposer de moyens de prévention efficaces de l'épidémie qui sévit en Afrique de l'Ouest, selon les experts. Testé aux États-Unis sur 20 volontaires sains, le vaccin CHAD3, co-développé par l'Institut des allergies et des maladies infectieuses et le laboratoire britannique GlaxoSmithKline, a été bien toléré et a déclenché une bonne réponse immunitaire selon des résultats publiés mercredi par l'Institut en question. Cependant, fait remarquer le professeur Jean-François Delfrécy, coordinateur national de la cellule dédiée en France à la lutte contre Ebola, nous n'avons toujours pas de vaccin contre Ebola, mais seulement des candidats vaccins. Les essais cliniques se poursuivront en Afrique de l'Ouest en 2015, a précisé mercredi le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut des allergies et maladies infectieuses. La firme Johnson & Johnson a annoncé le mois dernier qu'elle dégageait jusqu'à 200 millions de dollars pour accélérer la production de vaccins développés par sa filiale Janssen, avec pour objectif la production de plus d'un million de doses en 2015, dont 250 000 attendues d'ici à mai pour des essais cliniques. La Russie a pour sa part annoncé le 11 octobre qu'elle pourrait fournir 3 vaccins d'ici à 6 mois, en indiquant que l'un d'entre eux était déjà prêt pour un essai clinique. En attendant ces vaccins, les malades d'Ebola reçoivent des traitements expérimentaux.
Au Soudan, des hommes armés circulant à dos de chameau ont tué 15 civils et blessé 10 personnes lors d'une attaque dans la région du sud du Darfour. C'est ce qu'indiquent les autorités locales dans un communiqué. L'attaque a eu lieu dans la région de Hamadé, à 80 km au nord de la capitale régionale Niala, indiquait le communiqué diffusé par l'agence de presse officielle Suna. Selon l'AFP, l'un des blessés hospitalisés à Niala a précisé à l'agence que le groupe de citoyens a été attaqué alors qu'il revenait mardi dernier d'une visite effectuée à leur famille à Hamadé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les avions de guerre syriens ont effectué de nouvelles frappes aériennes sur Raqqa, la principale ville tenue par le groupe État islamique. L'Observatoire syrien pour les droits de l'homme, basé en Grande-Bretagne, rapporte que des civils ont été tués lors de ces attaques, qui ont fait aussi des blessés. L'organisation précise que la maison d'un juge a été touchée, ainsi que des écoles, un hôpital et plusieurs positions tenues par les militants de l'État islamique. L'agence Reuters rapporte pour sa part que 7 personnes ont été tuées dans les dernières frappes, dont 5 d'une même famille.
En Afghanistan, une explosion suivie de tirs nourris a secoué le quartier des ambassades de Kaboul. Cette attaque a eu lieu donc quelques heures après qu'un véhicule de l'ambassade britannique a été touché par une bombe à la voiture piégée, tuant 5 employés de l'ambassade. Les talibans ont revendiqué la responsabilité de cette attaque ainsi que les explosions qui ont secoué un quartier diplomatique à Kaboul jeudi soir. Les autorités locales parlent d'au moins 33 morts, la plupart des civils.
Le pape François entame ce vendredi une visite de 3 jours en Turquie. Il y défendra la place des chrétiens et le dialogue interreligieux dans un Moyen-Orient en guerre et où les chrétiens se sentent menacés. Le pape François va visiter les mêmes lieux chargés de symboles que Benoît XVI en 2006, à Ankara, le mausolée d'Atatürk, à Istanbul, la mosquée bleue et l'ancienne basilique byzantine Sainte-Sophie, transformée en musée.
Le nouveau Parlement ukrainien, mis en place après les élections du mois dernier, a tenu sa première session hier jeudi. Près de 3/4 des 450 députés ont voté pour maintenir Arseniy Yatsenyuk comme premier ministre du pays à 40 ans. Cet ancien avocat et banquier a joué un rôle dans la négociation d'un prêt de 27 milliards de dollars des bailleurs de fonds internationaux pour l'Ukraine.
Enfin, il n'y aura pas de baisse de la production mondiale du pétrole. L'OPEP, le cartel des grands pays producteurs de l'or noir, a décidé de maintenir les niveaux actuels de production, et ce malgré une surabondance de pétrole dans le monde qui a poussé les prix du marché à la baisse de plus de 30% depuis juin. À l'annonce de cette décision prise hier à Vienne par les 12 pays membres de l'OPEP, le prix du Brent a perdu 4 dollars supplémentaires et s'est retrouvé à 73 dollars le baril, son prix le plus bas en 4 ans.
Voilà, il est 5h40 en temps universel, minuit 40 ici à Washington, au micro Bagassi Koura. C'est tout donc pour le journal. À partir à présent, les dossiers du jour. On commence par la RDC où la situation sécuritaire qui prévaut depuis 2 mois dans le territoire de Beni au nord Kivu devient de plus en plus inquiétante. Plus de 200 personnes ont été tuées à la machette et à la hache par des présumés rebelles ougandais de l'ADF Nalu. Malgré les dispositions sécuritaires mises en place par les services de sécurité, les assaillants continuent à opérer dans la quiétude sans rien revendiquer. Le point avec Primo Pascal Rudaigua à Goma.
Jusque maintenant, personne ne sait exactement qui sont ces assaillants qui tuent régulièrement la paisible population de Beniville et Beni Territoire. Le président de la coordination de la société civile du Nord Kivu, Thomas Adakin Mwiti, estime que c'est une nouvelle forme de guerre qui a débuté au Nord Kivu.
Lorsque dans un petit coin, il y a massacre de plus de 80 personnes, même les bombes qui ont été larguées par le M23 n'ont pas fait un bilan journalier de ce genre. C'est que cette guerre-là est le plus meurtrière que toutes les guerres que nous avons traversées. Au niveau des services de la police, il y a des infiltrés. Au niveau de l'ANR, il y a des infiltrés. Au niveau de l'armée, il y a des infiltrés. Et ce sont ces infiltrés-là qui sont utilisés par ceux-là qui sont en train de mener la guerre contre la nation congolaise.
Le président du Barza intercommunautaire du Nord Kivu, Maître Fatah Kiluindi, invite plutôt la population à la cohésion pour éviter le pire.
Nous devons tous nous unir, tous faire un pendant que la guerre menace la province. Et nous devons taire nos petites dissensions, mais ne revoir que le bien général, le bien commun, par tous les moyens. Les moyens, par exemple, d'information, le moyen de bien interpréter les déclarations des autorités, le moyen de banaliser les rumeurs sans pour autant les rejeter totalement.
Quelques partis politiques de l'opposition demandent au gouverneur Julien Paluku de démissionner parce qu'il ne parvient plus à maîtriser ce qui se passe dans sa province. Maître René Kiunda est du DCFN.
L'autorité provinciale, ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir et il est débordé, y compris son gouvernement. Et la moindre chose qu'on peut lui demander, c'est de démissionner.
D'autres politiciens, par contre, ne sont pas de cet avis. Toutes les tendances politiques devaient plutôt se souder pour dénicher l'ennemi commun. Jean-Louis Ernest Kiaviro est du RCD KML.
L'opposition et le gouvernement sont tous aujourd'hui en deuil. Et l'ennemi qui tue nos frères, l'ennemi qui découpe les enfants à la machette et à la hache, est un ennemi de tout le monde. Car je sais que mon frère qui est dans le PPRD, dans le BIREC ou encore dans l'UNC ou dans le RCD-KML, a la même douleur que moi quand nous voyons les cadavres de nos enfants.
Pour l'instant, le gouvernement central a demandé à la population de déguerpir des villages insécurisés pour se concentrer dans les grandes agglomérations. Cette décision n'a pas été bien digérée par la société civile du territoire de Beni, car aucune disposition n'a été prise pour accueillir cette population. Goma, Primo Pascal Rudahigua, La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Voilà, lutte contre l'épidémie d'Ebola au Mali. Les transporteurs qui sont sur la route au Conakry-Bamako se plaignent du manque à gagner suite à la mise en place des cordons sanitaires à Kouré-Malé, car leurs clients se font rares. En ce qui concerne l'ampleur de l'épidémie dans le pays, on parle de 7 cas, dont 6 liés aux patients guinéens et à la fillette donc de Kaya. Il y a eu jusque-là 5 décès, dont 4 liés aux patients guinéens. 2 cas confirmés sont en traitement dans un centre spécialisé. Le nombre de personnes au contact comptabilisé par les services de santé et mis sous surveillance est de 288. Kassim Traoré nous en dit plus.
Depuis la visite du chef de l'État malien à Kouré-Malé, le contrôle sanitaire est devenu plus strict à la frontière guinéenne, d'où le manque de clients pour les transporteurs de l'axe Bamako-Conakry.
Si je m'en ai chauffeur transporteur Bamako-Conakry, alors là, on ne gagne pas de clients beaucoup. Avant, quand le véhicule vient ici, deux ou trois jours, ça se retourne maintenant. On peut faire 18 ou bien 15 jours, pas de passagers ni rien. On est en pleine crise maintenant.
Moi, présentement, je suis chauffeur de feu de la Guinée-Conakry. Mais depuis 12 heures, je suis arrêté. Il y a 3 personnes dans ma voiture d'abord. Il n'y a pas de clients.
En plus des agents sanitaires, il y a aussi des agents de la sécurité et des douanes maliennes qui jouent leur partition. Kassoum Sinenta, directeur général adjoint de la police nationale.
Quand un usager arrive à la frontière, il est d'abord ausculté, puis au niveau de l'équipe sanitaire, on prend la température. C'est après que nous, on remplit les formalités d'entrée sur le territoire national. Mais notre rôle, ce n'est pas un rôle actif à ce niveau, c'est un rôle d'accompagnement au niveau des équipes de santé qui sont placées au niveau de la frontière.
Ce dispositif renforcé à Kouré-Malé était nécessaire selon le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique du Mali, Ousmane Kone.
Et vu que les deux Kouré-Malé sont mitoyens, alors il nous a paru nécessaire de nous organiser pour que la vigilance soit plus accrue à ce niveau. Les frontières ne sont pas fermées, mais nous allons à partir de ce cas voir comment mettre encore renforcer les filtres sanitaires. Toutes les analyses ont montré que la fermeture des frontières est une solution fictive, mais en réalité, elle n'est pas efficace.
Les responsables des transporteurs ne veulent plus rester en marge. Youssouf Traoré, président de la Fédération nationale des transporteurs du Mali.
Nous avons responsabilisé des gens. Nous sommes responsabilisés des gens qui sont là, qui sont au niveau des gares routières, avec des entonnoirs, des réservoirs, avec du savon, des détergents et tout ça. Donc, les gels antibactériens qu'on donne aux gens et on explique aux passagers. Et quand ils reviennent du voyage, c'est voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que le passager doit faire avant d'embarquer dans les cars.
Aujourd'hui, le nombre de personnes mises en quarantaine diminue de jour en jour. De plus de 500, on est à 288. Deux cas confirmés sont en traitement dans un centre spécialisé. 0 nouveau cas est confirmé à ce jour. 7 cas sont déclarés positifs, dont 6 liés aux patients guinéens et à la fillette de Caille. 5 sont décédés, dont 4 liés aux patients guinéens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Voilà, un forum national sur le vote des jeunes et la démocratie se tient depuis hier à Libreville à l'initiative du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon. L'organisation de cet événement, qui réunit au moins 250 jeunes venus de tous les coins du pays, est appuyée principalement par le Fonds des Nations Unies pour la démocratie et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Gabon. Et Chirubin Dorsil a posé quelques questions à ce sujet à Georges Mpaka. Il est l'un des leaders de la société civile gabonaise.
Est une réponse de la jeunesse à la problématique de la désaffection politique des jeunes. Les différentes études des institutions, notamment des FNSDC des Nations Unies et de la société civile, ont révélé que plus de 82% des jeunes ne participent pas aux consultations électorales. Cette situation résulte du fait que les jeunes désapprouvent le fait qu'ils ne soient pas impliqués dans la prise de décision. Ceux qui participent au processus politique ou au processus électoral sont souvent instrumentalisés par des hommes politiques, reçoivent de l'argent, sont victimes, si vous voulez, de la corruption politique. Donc ce forum réunit 250 à 300 jeunes qui viennent de l'ensemble des provinces du Gabon. Il s'agit pour eux de débattre et de faire des propositions afin que des réformes au niveau institutionnel et politique soient élaborées et appliquées pour intégrer de façon effective les jeunes dans les différentes sphères de décision politique, mais également renforcer, accroître leur participation, non seulement en tant que candidats, mais aussi en tant qu'électeurs.
Nous savons que ce forum est surtout l'initiative de la société civile gabonaise. Quelles entités ont été invitées à y participer?
Ben, nous avons invité toutes les autorités, dans la mesure où le forum est sous la présidence du président du Conseil économique et social, étaient invités les responsables des principaux partis politiques de l'opposition et de la majorité qui ont répondu présents, le ministère de la Justice, de la Jeunesse, de l'Intérieur, les organisations internationales, les ambassades des États-Unis de France, l'Union européenne. On a même invité les pygmées on a invité les handicapés, les jeunes vulnérables. Donc, tous ceux qui participent à l'expression et à la gouvernance démocratique ont été invités à ce forum.
Comment allez-vous mesurer le succès de ce forum?
Nous allons mesurer le succès de ce forum à travers l'engagement politique, parce que ce que nous voulons, c'est un engagement politique au plus haut niveau, un engagement en faveur des réformes, pour impliquer véritablement les jeunes, pour intégrer les jeunes, afin que vraiment le processus politique soit véritablement démocratique. Si les jeunes continuent à être exclus, nous risquons d'aboutir à des bouleversements qui risquent d'être irréversibles pour le pays.
Et cela indépendamment des affiliations politiques, parce que, comme vous l'avez dit, c'est ouvert à toutes les tendances.
Bien entendu, les jeunes sont critiques par rapport à la gestion actuelle du pays, mais nous laissons les jeunes s'exprimer. Les débats sont houleux.
Voilà, Georges Mpaka, responsable du réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon.
La Voix de l'Amérique au Gabon sur Ogoué FM à Libreville.
Voilà, les Américains ont célébré hier la Thanksgiving, ou le jour des actions de grâce, au menu repas des familles, avec au cœur du repas la dinde. C'est tout un rituel. Et Michel Joseph, productrice ici à VOA Afrique et mère de famille, s'y connaît bien. Elle a raconté à Jean-Roger Bion sa recette pour la Thanksgiving.
Tout d'abord, on reconnaît les traditions américaines et les très bonnes nourritures que l'on trouve ici aux États-Unis. Surtout les légumes en saison, les courges, les patates douces, la dinde bien sûr. Donc tout ce qui est légumes, les épinards, les collard greens comme on les appelle ici.
Au centre du repas familial lors de la Thanksgiving, il y a la dinde. Et vous, en tant que caribéenne, vous avez une façon à vous de faire cuire cette dinde et de la proposer à votre famille. En fait, vous l'adaptez à vos origines.
Il faut tropicaliser quand on vient des Antilles. Heureusement, on a accès aux ananas, aux mangues, à la papaye.
Vous tropicalisez certes, mais c'est un peu différent de l'Afrique, cette
oui,
tropicalisation.
Oui, c'est quand même différent. Je pense qu'ajouter les goûts de fruits aux viandes, c'est assez courant dans les Antilles. À l'intérieur de la dinde même, je vais couper des gros morceaux d'oignons, incorporer des morceaux d'ananas, de mangue, de papaye, donc les fruits tropicaux avec les oignons et l'ail.
Alors les Américains n'agissent pas de cette façon?
Non. Eux, ils mettent des mie de pain, donc ils mettent la sauce à la dinde et ils ajoutent de la mie de pain à l'intérieur et ils appellent ça stuffing. Donc moi, à tout cela, je vais ajouter des fruits tropicaux.
Quel est pour vous le sens de la Thanksgiving?
Pour moi, je suis très touchée en fait par l'histoire américaine et le fait qu'en fait c'est ce repas qui a pu venir à la rescousse des pèlerins qui, eux, n'avaient jamais mangé ce genre de choses, patates douces, même la dinde, je crois, je ne sais pas. Ce symbole-là, moi aussi, je le remets à un autre niveau et c'est l'occasion de remercier tous les amis, d'avoir de la gratitude, d'incorporer les amis si eux, justement, n'ont pas occasion de venir en famille pour célébrer ça. Donc, c'est un peu porte ouverte pour la famille, les amis et aussi les inconnus. Si, par exemple, vous rencontrez quelqu'un et cette personne n'a rien à manger ou n'a pas occasion d'aller en famille quelque part, le Thanksgiving, c'est à ce moment-là que les gens invitent d'autres personnes.
Voilà, merci Michel, Joseph et Jean-Roger Bion. Il n'est pas trop tard pour vous d'essayer cette recette. Même après la fête, vous la retrouvez sur notre site voafrique.com. Le monde aujourd'hui. Place au sport avec Chérubin Dorsil. Bonjour Chérubin.
Salut Bagassi, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Thanksgiving.
Bien sûr, la fête a été excellente. Pour commencer, disons que finalement le Ghana est un sélectionneur.
Oui, c'est l'Israélien Avram Grant, ancien entraîneur de Chelsea, qui a été officiellement nommé sélectionneur du Ghana hier par la Fédération ghanéenne de football. Il aura pour mission de redresser l'équipe après une Coupe du Monde 2014 désastreuse. Pour répéter le président de la fédération, son objectif est de bien figurer lors de la CAN 2015 et de gagner l'édition 2017. Grant, dit-il, a besoin de temps pour connaître parfaitement les joueurs. Âgé de 59 ans, Avram Grant succède à Kwesi Appiah, dont l'équipe a fait piètre figure au Brésil, sans parler des scandales qui ont marqué le séjour des Ghanéens en Amérique du Sud l'été dernier.
Et Chérubin, parlant de scandale, le jury d'appel de la CAF confirme la disqualification du Ghana du championnat des moins de 17 ans.
Réuni le 26 novembre, donc avant-hier, au siège de la CAF au Caire, le jury d'appel a confirmé la décision prise en première instance par la commission d'organisation de la CAN U17, disqualifiant le Ghana pour avoir aligné un joueur non éligible en violation de l'article 40 des règlements de la compétition. Le Ghana est donc éliminé de la phase finale prévue au Niger et le Cameroun qualifié par la même occasion. Cette décision est susceptible d'appel, bien sûr, devant le tribunal arbitral du sport dans les 10 jours qui suivent la notification des parties.
Finale aller de la Ligue des champions, le CE Sport de San Pedro reçoit le Al Ahly d'Égypte. Ce sera ce samedi au stade Robert Champrou d'Abidjan. Finale aux allures de David contre Goliath. Le CE Sport est 3 fois champion de Côte d'Ivoire avec 2 participations seulement en Ligue des champions. Le Al Ahly, 37 fois champion d'Égypte et 8 coupes de Ligue des champions. Finale donc à l'avantage du Al Ahly, mais le CE a un objectif précis. Écoutons Rigo Gervais, l'entraîneur du CE Sport.
Nous, on aimerait avoir au moins ce trophée-là pour pouvoir entrer dans l'histoire de l'Afrique. Donc, c'est à nous de jouer. C'est à nous d'être déterminés. S'ils perdent cette finale, eux, déjà, ils en ont remporté plusieurs. Donc, c'est à nous de nous battre. C'est à nous d'aller chercher le trophée. Donc, c'est la détermination. Je pense qu'il faut avoir cette rage de vaincre. Il faut être plus motivé qu'eux. Nous, on n'a que cette détermination-là pour pouvoir acheter ce trophée. Il faut que nous, on ait plus envie que le Al Ahly.
C'était Rigo Gervais, l'entraîneur du CE Sport San Pedro. Championnat du Cameroun, la coupe reste à Garoua.
En effet, Coton Sport Garoua, vainqueur 2-1 de Union Douala, a conservé son titre de champion du Cameroun à l'issue de la 37e et avant-dernière journée du championnat. Coton Sport Garoua, qui a remporté la coupe du Cameroun dimanche, réalise ainsi le doublé coupe-championnat.
Et puis, note de distinction pour le footballeur sénégalais Sadio Mané.
L'attaquant de Southampton et des Lions du Sénégal a été élu meilleur footballeur sénégalais de la saison 2013-2014. Après avoir largement contribué à qualifier le Sénégal à la phase finale de la CAN 2015, Sadio Mané mérite largement d'être honoré de cette façon. Sachez aussi que Mané a remporté le championnat autrichien avec les Red Bulls de Salzbourg. À 22 ans, il a aussi été nominé pour le Ballon d'Or de la Confédération africaine de football.
Parlons, Gabi, d'un autre personnage du football, une ancienne gloire qui se porte mal aujourd'hui.
Il s'agit du roi Pelé. L'état de santé de la légende du football brésilien âgé de 74 ans a empiré hier et il a été transféré dans une unité de soins spécialisés, a annoncé l'hôpital Albert Einstein de São Paulo, où il est traité pour une infection urinaire. Et Bagassi, je vous laisse le dernier mot, les résultats de la NBA.
Eh bien, Chérubin, disons qu'à cause de la célébration de la Thanksgiving, qui est une fête très importante ici, les joueurs de la NBA ont observé hier un repos. Les matchs reprennent ce vendredi soir. Merci, Chérubin. Je me tourne maintenant vers Roger Moutou pour la musique. Bonjour, Roger.
Salut, Bagassi. Ce matin, nous écoutons un morceau zouk d'Éric Brouta.
Moi qui a pensé que vous marchez, même si vous laissez moins temps, moi il doit faire la java comme elle est.
Il faut dire qu'Eric a démarré sa carrière musicale en 1977. Il était batteur au sein d'un petit groupe de reggae nommé Smoke.
Oui, Bagassi, et c'est en 1985 qu'il apparaît de plus en plus dans le paysage du showbiz antillais grâce à une chanson sortie d'un album réalisé en collaboration avec Frédéric Caracas, Tchétché Moins. Mais aussi grâce à un look typique. En effet, Eric Brouta porte des lunettes noires qui font désormais partie de son style.
Alors, c'est ton style, ça, Roger ?
Non, c'est le tien, Bagassi. C'est toi qui aimes bien tes lunettes de soleil.
Roger Moutou, que vous suivez dans RM Show, chaque jour à partir de 20h, temps universel.
I'm being
Voilà, c'est donc sur cette note de Zouk que s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Alberson a assuré la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique. C'était Bagassi Koura au micro. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie.